Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette journée spéciale où on veut fêter, Seigneur, les mamans. Merci pour le soleil qui est au rendez-vous. Merci, Seigneur, pour toutes les mères qui vont être bénies, qui vont être réjouies de recevoir un coup de fil, d'avoir un bon repas, Seigneur. Père, viens bénir toutes celles aussi pour qui c'est pas aussi réjouissant, Seigneur, comme journée, parce que ça rappelle des deuils, ça rappelle des espoirs aussi, Seigneur. On te demande, Père, de bénir cette journée devant toi. Père, j'aimerais te demander de nous accompagner dans cette étude biblique. Seigneur, notre désir, c'est d'élever ton nom, de t'adorer, de se placer sous la main du Dieu souverain qui nous a sauvés. Notre désir, Seigneur, c'est d'honorer ta parole, de plonger les regards dans ta parole, d'y trouver toujours une source grandissante d'encouragement, de force, d'adoration. Viens, Seigneur, éveiller nos passions, notre passion pour toi, Seigneur, à travers ce sujet. Que ce ne soit pas une pierre d'achoppement pour quelques-uns, Seigneur, mais au contraire, une source d'encouragement. Je te prie d'être avec mes lèvres afin, Seigneur, que je ne traite pas ce sujet à la légère et que je n'ai pas au-delà de tes Écritures. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, ce matin, comme ça avait été mentionné la semaine dernière, on termine le sujet de l'élection et de la réprobation. Je ne vais pas réviser la leçon de tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Simplement vous rappeler à la première page de vos notes, pas la page couverture, mais la première page de notes, vous aviez une espèce de plan en 10 points de l'ordre du salut qui peut vous aider quand même à placer tout ça. Simplement vous rappeler aussi, puisque là on arrive dans la deuxième partie, puis on rentre dans on rentre là où il y a des divisions, où il y a des divergences d'opinion, des divergences de compréhension des Écritures sur l'élection. Juste pour éviter, parce que je pense qu'il y a quand même un piège dans tout ça, c'est très clair pour tous les chrétiens que nous sommes élus. Donc, quand cette question-là n'est pas débattue pour ceux qui lisent les Écritures, c'est clair que nous sommes élus, c'est trop évident. Et au début de la leçon, on avait lu comme une dizaine de passages qui affirmaient clairement que nous sommes élus. La question où il y a des désaccords, c'est sur la base de quoi sommes-nous élus? Est-ce que c'est sur la base d'un choix seul et unique de la part de Dieu, ou est-ce que c'est sur la base d'une préscience, Dieu connaissant à l'avance le choix que certains feraient étant exposés à la grâce, aurait à ce moment-là comme confirmé, on va dire, leur choix en les élisant. D'accord? C'est vraiment là qu'il y a la divergence. Alors, faites attention quand vous parlez de cette doctrine-là, de refléter l'idée que vous êtes contre l'élection. C'est parce que là, vous seriez contre beaucoup, beaucoup de passages de la Bible. Si vous n'êtes pas d'accord, admettons, avec ma compréhension, ça me va. Un jour, le Seigneur va vous éclairer. C'est vrai. Mais quand même, faites attention de ne pas comme jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Oui. OK. C'est bon. alors ça c'est vraiment important. La doctrine de l'élection est là dans les Écritures, elle est là pour tous les croyants. Au bas de la page 3, justement, là, je vais avec les numéros de page. L'élection est un acte de Dieu avant la création, au milieu plutôt, par lequel il choisit certains pour être sauvés, non à cause de quelques mérites de leur part qu'il aurait connus d'avance, mais uniquement selon son bon plaisir souverain. Je vous dirais que ça reflète la position, la compréhension calviniste, cette définition-là, mais c'est très près quand même d'une compréhension arménienne, dans le sens que les Arméniens, bien que moi je vois dans leur compréhension l'idée d'un mérite de la part de ceux qui auraient été choisis sur la base du fait qu'ils vont accepter, eux vont dire non, c'est pas sur la base de nos mérites qu'on est choisis. D'accord? Alors c'est quand même une définition qui est presque universelle. On a vu ensemble comment le Nouveau Testament présente la doctrine de l'élection, qu'est-ce que cette doctrine est censée apporter aux croyants. Et donc, c'est important de le garder en perspective. Des fois, lorsqu'on est mal à l'aise ou lorsqu'on a des désaccords avec d'autres chrétiens sur certaines doctrines, par exemple l'eschatologie, on peut faire l'énorme erreur de dire « Ben moi, j'étudierai pas ça parce que de toute façon, ça cause des divisions. » Non, la question, c'est est-ce que Dieu parle du futur Est-ce que Dieu parle du retour de Jésus? Mets-en qu'il en parle. Fait, va l'étudier, bâtis-toi une conviction, sois respectueux des convictions des autres, il n'y a pas de problème, on ne veut pas être arrogant là-dedans, mais évite pas ces sujets-là, c'est des sujets qui sont là pour l'édification de ton âme. D'accord? Donc, la doctrine de l'élection, c'est un sujet important. Les Écritures nous disent qu'il y a un grand réconfort dans l'élection. Il y a un grand encouragement dans l'évangélisation dans l'élection. Quelle que soit ta compréhension, ça demeure ça. Et donc, ce sont des doctrines qui sont importantes, elles sont là pour notre édification. Point C, je suis à la page 6 de mes notes. Compréhension erronée de la doctrine de l'élection. On a vu ensemble que l'élection n'est ni fataliste ni mécaniste. C'est pas comme ça que les Écritures le présentent. Et nous étions rendus, on avait commencé le point 2 de la page 7. L'élection ne se fonde pas sur la préconnaissance qu'a Dieu de notre foi. À part l'eschatologie, c'est probablement les deux doctrines où il y a le plus de gymnastique intellectuelle à faire. D'accord? Alors, je sais que c'est peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être un petit peu lourd. En même temps, peut-être que ceux qui sont venus pour le deuxième dimanche, c'est ceux qui sont intéressés, donc peut-être que c'est pas trop lourd. Mais je vous le dis, je concevrais que vous me disiez, « Ouais, Yannick, ça aurait été le fun que ce soit plus pratique. » Ça a des implications très, très pratiques, mais pour le comprendre, il faut être prêt à poser des questions qui sont un petit peu compliquées. Alors, je vous le dis, on va être dans l'argumentaire un peu complexe des fois, là, pendant la leçon ce matin. Alors, page 7.2. L'élection ne se fonde pas sur la préconnaissance qu'a Dieu de notre foi. Et c'est là qu'il y a tout le débat, d'accord? Certains vont dire que l'élection repose sur la préscience de Dieu. D'autres vont dire non, c'est une élection pure, comme nous on dit, comme moi je le comprends, c'est-à-dire Dieu nous a choisis, un point c'est tout. Il aurait pu ne pas me choisir, c'était vraiment entre ses mains. La doctrine de l'élection étant présentée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament particulièrement, là, je termine une petite révision, bien des gens se réconcilient avec cette doctrine en se disant que c'est parce que Dieu savait à l'avance qui accepterait de croire qu'il a pu élire des individus tout en étant juste. Alors plusieurs se réconcilient avec cette doctrine qui a quelque chose, avouons-le, de choquant, très édifiante pour moi, mais choquante en même temps. Alors, plusieurs se réconcilient avec cette doctrine en se disant « Ah, j'ai compris. Dieu nous a élus sur la base du fait qu'il savait qui accepterait. » Et donc là, je suis en paix. Là, je suis réconcilié avec Dieu. Dieu est correct. Dans le fond, il fait juste donner aux autres ce qu'il voulait. Puis à nous, il nous donne ce qu'on voulait. D'accord? Ainsi, suivant cette pensée, dans une bonne mesure, le salut d'un individu repose essentiellement sur lui-même plutôt que sur Dieu. C'est Dieu qui appelle, mais selon ce qu'il y a dans une personne, celle-ci sera sauvée ou non. Qu'on soit prêt à le reconnaître ou non, c'est là que ça se distingue entre les deux positions. D'accord? La position arménienne dit « Dieu expose tous les hommes à la grâce, puisque Dieu appelle tous les hommes. Dieu expose tous les hommes à la grâce, et devant la grâce, un certain nombre accepte. Et devant la grâce, un certain nombre refuse. » D'accord? Donc, la position arménienne, ce qu'elle va dire, c'est sans la grâce, aucun homme peut être sauvé. On est sauvé par grâce. D'accord? Sans la grâce, aucun homme ne peut être sauvé. Ça, c'est clair. Donc, en ceci, ils sont tout à fait d'accord avec les calvinistes. Les deux parties sont d'accord. Maintenant, la position arminienne dit « Exposés à la grâce, certains trouvent en eux-mêmes de prendre cette décision-là. » La position calviniste dit « Non, si Dieu n'avait pas élu, même devant la grâce, tous les hommes auraient la même réponse. Ce serait « Non, j'en ai rien à cirer. » D'accord? Et donc, c'est la position entre les deux. Fait que les calvinistes vont argumenter en disant, bon, ben, en fin de compte, la question, c'est est-ce que la responsabilité de mon salut repose plus entre les mains de Dieu ou entre mes propres mains? D'accord? C'est comme ça que moi, je vais le voir aussi. Dans le sens que, inévitablement, ça veut dire que certains d'entre nous avaient quelque chose en eux-mêmes qui leur permettait de faire ce choix-là que les autres n'ont pas. Le verset invoqué pour défendre cette compréhension de l'élection, c'est-à-dire sur la base de la préscience, est généralement Romains 8:29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Et donc, le texte, je vous dirais que c'est le texte le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres textes qui vous viennent à l'esprit, qui sont utilisés? Il y en a un autre dans Pierre, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres aussi qui vous viennent à l'esprit que j'aurais manqué, qui vous amèneraient à dire, ben peut-être que Dieu nous a choisis sur la base de la préscience? Est-ce qu'il y en a d'autres? excuse-moi, je vais juste te demander de nous mettre ça dans le micro. Oui.
Comme je te mentionnais, l'autre jour, c'est pas vraiment des textes spécifiques reliés à ça, prédestinés ou pas, élection. C'est plus des éléments, concepts, je trouve, dans la Bible qu'on retrouve, où ce qu'on voit que c'est un don de Dieu, puis la personne doit l'appeler, tu sais. On pense juste au verset, là, je t'avais mentionné, Jean 3,16, qui est très commun, tu sais. Tu vois, dans Jean 3,16, c'est afin que quiconque croit en lui. Donc, c'est comme, je comprends que Dieu a fait en sorte dans l'être humain que la personne, change son esprit, que c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché. Mais il y a des différents versets comme ça qu'on voit que c'est un don de Dieu, puis il faut que la personne
le choisisse.
Ouais. Même Jean 3,7, afin que quiconque croit en lui, ça veut dire qu'il y a eu le quiconque, c'est moi, c'est toi qui a voulu croire en lui, tu sais. Ouais. Fait que je trouve qu'il y a une intervention humaine dans ça, mais je comprends que c'est Dieu qui a fait en sorte que ça vienne, tu sais. C'est pour ça que je suis plus de position arménienne que.
Oui, je comprends. Fait que. Okay. Je vais juste commenter ça, juste pour le situer dans la discussion. Ce que Denis est en train de soulever, c'est... comment je le situe? Ce que Denis est en train de soulever, c'est très important. Ce qui fait que bien des gens sont mal à l'aise avec la position calviniste, c'est qu'on lit les Écritures, puis partout dans les Écritures, l'homme est appelé à accepter ou à refuser. D'accord? Ça, c'est clair. C'est très, très clair, puis les calvinistes aussi le voient, ça. Donc, la conséquence, la suite logique de ça, un peu ce que Wemba soulevait la semaine dernière, la suite logique de ça, c'est que si je suis appelé à choisir, mais il faut que je puisse choisir ou non. D'accord? Maintenant, ça, c'est une partie de la question. OK? Puis c'est vrai, puis on va y revenir un petit peu plus loin. Ça, c'est une partie de la question. Ce que j'adresse ici avec ce verset-là, c'est est-ce qu'il y a d'autres textes qui nous disent que ce serait sur la base d'une préconnaissance du choix des individus que Dieu nous aurait élus? Est-ce qu'il y a un texte dans Pierre et un texte dans Romain? Tu as quelque chose d'autre, Sylvain?
Ça renforce. Le verset que j'ai renforce plutôt que c'est Dieu qui décide. Mais on dirait que j'ai pas le choix de le dire. Là. Jésus lui répondit, ne murmurez pas. En passant, c'est dans Jean 6, 44. Là. Jésus répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour.
Oui.
Ça passe. Et...
Alors, par exemple, pour donner un fair fight aux Arméniens qui ne sont pas en avant dans le ring, ce qu'ils vont faire avec ça, c'est qu'ils vont dire définitivement, personne ne peut venir à Dieu si Dieu n'attire. Maintenant, Dieu attire tous les hommes. Certains acceptent, certains refusent. D'accord? C'est comme ça qu'ils vont le voir. La grâce est offerte à tous les hommes. Devant la grâce, certains acceptent, certains refusent. Ça, c'est ce qu'ils vont faire avec ce texte-là. D'accord? Mais c'est un bon texte pour les calvinistes, Sylvain, je suis d'accord avec toi. OK. Alors, on continue à la page 7. Je vais continuer à avancer, je vais reprendre des questions après. Par rapport à Romains 8:29, regardez bien ça, c'est important. Je trouve que Grudem fait un bon point. Au début, il semble pas solide son point, mais plus il avance là, dans A, B, C, D, plus ça devient clair. Cependant, il nous apparaît évident que d'utiliser ce verset pour démontrer que Dieu fonde sa prédestination sur sa préscience de la foi de quelqu'un en revient à forcer ce verset. La question, c'est, lorsque Paul dit « ceux qu'il a connus d'avance », qu'est-ce qu'il veut dire par connaissance? Est-ce qu'il veut dire « ceux qu'il a connus » comme dans les Écritures, il est question d'être connu de Dieu et de connaître Dieu, ou si c'est de connaître des choses sur le choix, connaître des choix que la personne va faire à l'avance? Et donc, par exemple, dans un couple, on va dire qu'Adam a connu Ève. Et donc, on va parler dans d'autres passages que nous avons été connus de Dieu, puis un jour, on va le connaître comme il nous a connus. Est-ce que c'est de ça qui est question ici, ou est-ce que Paul est en train de dire qu'il a connu des faits d'avance sur ce qu'ils allaient faire comme choix? J'ai de la difficulté à voir que c'est ça qu'il est en train de dire ici dans le texte, d'autant plus que c'est pas vraiment Paul que tu veux prendre pour défendre cette position-là. On va avancer ensemble, vous allez le voir là. Ce passage, toujours au point A, affirme que Dieu a connu des personnes d'avance. Non pas qu'il a connu leur choix, il n'affirme pas non plus que ce serait en vertu de leur choix qu'il les aurait élus. Alors, lorsqu'il dit « ceux qu'il a connus d'avance », explicitement, Paul n'est pas en train de dire « en vertu de leur choix, il les a élus ». D'accord? Le texte ne dit pas ça explicitement. Et Paul semble dire le contraire ailleurs. Il est tout à fait possible que Paul emploie le verbe « connaître » dans le sens d'intimité et de relation. Être connu de Dieu et connaître Dieu parle de notre communion. Donc, ça pourrait être tout simplement que Paul, ceux que Dieu a connus, qu'il a choisis, qu'il a aimés d'avance, il m'a connu par mon nom d'avance, il m'a aimé d'avance, il les a élus. Est-ce que c'est ça? On va voir. L'Écriture ne présente jamais notre foi comme une raison qui a motivé le choix de Dieu. Ça, c'est important, d'accord? La position arménienne en vient à dire que c'est en vertu du choix d'un individu que Dieu l'a élu, d'accord? Les Écritures n'affirment jamais ça explicitement, et les Écritures n'affirment surtout jamais que c'est en vertu de notre foi que Dieu nous aurait élus. J'ai cru, lui a cru, donc je vais l'élire. Vous ne trouvez pas de textes qui vont affirmer une idée semblable. Le problème qu'on a avec la doctrine de l'élection, c'est qu'on a un conflit de logique. D'accord? Et encore une fois, ça revient un petit peu à la réponse que j'avais apportée à Wimble la semaine dernière. J'ai un conflit logique et j'ai deux options. Je vais trouver comment régler la quadrature du cercle, peu importe ce qu'il faut que je fasse pour y arriver, ou à un certain moment donné, je m'arrête puis je dis... La pensée de Dieu est supérieure à la mienne, puis il n'y a peut-être pas de réponse accessible vraiment à l'homme. D'accord? Alors, B, l'apôtre Paul semble exclure explicitement toute considération de comportement humain dans le fait que le choix de Dieu se soit porté sur Jacob au détriment d'Ésaü. Rappelez-vous l'argument dans Romains, d'accord? Je vous le lis, Romains 9, 11 à 13. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, je vous relis ma phrase juste avant. L'apôtre Paul semble exclure explicitement toute considération de comportement humain dans le fait que le choix de Dieu se soit porté sur Jacob au détriment d'Ésaü. L'argument de Paul dans Romains 9, ça semble être clairement, c'est pas parce que Dieu a vu quelque chose en eux qu'il les a choisis. C'est parce qu'il les a choisis, point. Et c'est ça son argument dans Romains 9. Après ça, il faut que j'essaie de jongler avec ça. Le point C. L'élection basée sur quelque chose de bon en nous, la foi, marquerait le début du salut par le mérite. Tout l'argument de la compréhension calviniste du cœur de l'homme, c'est que nous sommes totalement dépravés. Et il n'y a rien de bon en moi qui pourrait me prédisposer à venir à Dieu. Je n'ai pas les ressources en moi-même pour le faire. La position arménienne doit admettre que, une fois que tous les hommes sont exposés à la grâce, certains d'entre nous ont quelque chose que les autres n'ont pas, qui les prédispose à faire un meilleur choix que les autres. D'accord? Et donc, dans ma compréhension à moi, c'est le premier pas vers une position où on va défendre le salut par les œuvres, le salut sur la base des mérites. Il y a quelque chose de méritoire, il y a quelque chose de supérieur en certains d'entre nous. C'est pas mon expérience à moi. D'accord? Ce n'est pas mon expérience à moi lorsque je considère le salut de mes proches qui refusent toujours l'Évangile et le fait que moi j'ai accepté. Je ne m'avance jamais devant Dieu en disant « Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as fait un peu plus lucide et un peu plus intelligent que ceux à côté de moi qui n'ont pas choisi. » Ce n'est pas mon expérience, vous comprenez? Mon expérience, c'est « Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que moi j'ai accepté et lui il n'a pas accepté? » Ça, c'est mon expérience. Et c'est généralement l'expérience de tous les chrétiens aussi, d'accord? Il n'y a pas quelqu'un qui a une position arménienne qui va dire « Merci Seigneur de m'avoir fait un peu supérieur aux autres. » C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais logique pour logique, c'est là qu'on s'en va. D'accord? D. La prédestination basée sur la préconnaissance de Dieu n'est pas pour autant synonyme de libre choix de l'homme. Alors, ça c'est important. On est dans un argumentaire logique, on est en train d'essayer de régler un problème où on a un malaise avec Dieu parce qu'on dit « Dieu aurait décidé d'en élire quelques-uns, ça veut dire qu'il en a donné d'autres. Et donc, j'ai un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. » On va trouver une solution logique à tout ça, d'accord? Écoutez bien ceci, c'est important. La prédestination basée sur la préconnaissance de Dieu n'est pas pour autant synonyme de libre choix de l'homme. Pourtant, une vision de l'élection basée sur la préconnaissance de Dieu n'implique pas nécessairement que l'homme, je m'excuse, soit libre de ses choix. En effet, cette vision de l'élection peut conduire elle aussi à un certain fatalisme, en ce que si suivant la préscience de Dieu, un individu a été élu, ce système n'accorde pas de véritable liberté à l'homme. Dans le passé, dans l'éternité, Dieu savait quel choix j'allais faire et il m'a élu. Donc, il n'y a plus rien que je peux faire à rien pour changer quoi que ce soit. Je n'ai pas de liberté actuellement. Sur la base d'une liberté future, quand je vais choisir, dans le passé, Dieu m'a élu. J'ai aucune liberté maintenant. Tout est choisi, tout est arrêté. On sait lesquels vont être sauvés, lesquels sont damnés. On ne peut plus rien changer à tout ça. Parce que Dieu savait d'avance, puis il n'y a aucun facteur de changement qui peuvent entrer en cours de route. D'accord? Donc, c'est pas implicite qu'on a la liberté complète à ce moment-là. D'accord? Parce que, est-ce que Dieu n'aurait pas pu jouer avec d'autres facteurs pour changer les choses? Non, mais Dieu savait, puis s'est arrêté. D'accord? Conclusion, l'élection est inconditionnelle. Les quatre points que nous venons de voir nous conduisent à rejeter. Personnellement, c'est ma conviction. L'idée selon laquelle l'élection s'appuie sur la préscience divine de notre foi. Nous pouvons affirmer au contraire que la raison de l'élection réside simplement dans le choix souverain de Dieu. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Dieu nous a choisis parce qu'il a décidé de nous accorder son amour et non en prévision de notre foi ou d'un quelconque mérite en nous. Maintenant, on va regarder des objections à l'élection, à la doctrine de l'élection. Cependant, nous devons reconnaître, ça je l'ai mentionné, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais peut-être juste vous lire la liste. Okay? Ce n'est pas tous les évangéliques qui ont la même position. Et je vous apporterai pas la vérité si je vous présentais qu'il y a juste une position. Nous dirons généralement que parmi les évangéliques, les chrétiens issus des milieux réformés ou calvinistes adhèrent à l'élection dans une position calviniste ou élection pure, de même que de nombreux luthériens, anglicans, baptistes et de nombreuses églises indépendantes. Alors que la presque totalité des méthodistes rejette cette position, ainsi que plusieurs églises baptistes, anglicanes et indépendantes. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il a fallu que je l'ajoute moi-même. Là. Méthodiste, ça veut dire aussi pentecôtiste. D'accord? Parce que les églises méthodistes viennent en fait du mouvement méthodiste avec John Wesley. Fait que la majorité des assemblées pentecôtes sont a priori arméniennes. Et elles vont aller un petit peu plus loin aussi parce qu'elles vont dire, puisque c'est nous qui avions la liberté de choisir au départ, Dieu nous a élus sur la base d'un choix qu'on allait faire, on a la liberté aussi de quitter le salut. Et donc, les assemblées pentecôtes vont enseigner qu'on peut perdre le salut aussi. Maintenant, ce n'est plus toutes les assemblées pentecôtes qui enseignent ça, mais la grande majorité enseigne ça. Fait qu'il y a quand même deux positions qui sont présentes. L'élection, alors une des objections qu'on trouve à l'élection signifie que nous n'avons pas le choix d'accepter Christ ou de le refuser. Selon cette objection à l'élection, cette dernière reviendrait à dire que l'homme n'a plus aucun choix à faire et qu'il n'y a plus de véritable appel de l'Évangile. Mais la position calviniste traditionnelle ne nie aucunement que l'individu a un choix à faire. En effet, nos choix sont libres et délibérés parce qu'ils reflètent ce que nous voulons faire véritablement. Comme je vous dis, vous allez le voir à la fin, là. Que vous preniez n'importe quelle position, vous allez avoir un problème de logique simple. Il y a un mystère dans tout ça, et j'espère vous le montrer avec la dernière page, d'accord? C'est mal comprendre la position calviniste que de comprendre que, par exemple, moi je crois que l'être humain n'a pas de choix à faire. Moi je crois que tous les hommes ont un choix à faire, ou sinon je ne prêcherais pas. Vous comprenez? Je lirais ma Bible, je ferais un culte, moi j'ai choisi. Puis les autres choisiront, puis on va juste répandre des textes des Écritures partout sur la terre. Mais je ne prêcherai pas, puis je ne le ferai pas avec autant de passion. Avez-vous l'impression que le gars en avant pense que vous n'avez pas de décision à prendre lorsque je prêche? Si c'est ça, dites-moi là, je vais crier plus fort. Là. Vous comprenez? Fait que vous avez un choix à faire, c'est clair dans ma théologie pratique. En tout cas, vous le voyez, vous butez un gars qui est convaincu que vous avez un choix à faire chaque dimanche. Oui, Camille?
Je ne sais pas si je vais trop vite, là, mais je compare un peu le salut et la sanctification. La sanctification, c'est Paul qui nous dit « Travaillez à votre salut » et il dit que la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, il y a un appel à ce que nous, on a quelque chose à faire, pourtant, c'est clairement indiqué que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut avoir cette sanctification-là dans dans notre vie. Donc, on a un choix de marcher selon l'Esprit. Donc, on peut aller contre cet Esprit-là. Et le salut, la foi, c'est un don de l'Esprit aussi. Mais on a encore le choix de dire oui ou non. Exactement. Donc, comme on se convertit, De la même manière, on marche dans le Seigneur.
Oui, je comprends. Tout à fait. Mais... Ah, parce que tu suis, toi, là. Je pensais que tu faisais des courriels.
Un commentaire. Donc, je connais bien le dossier.
OK, vas-y.
Non, en réalité, l'homme a un choix. Mais lorsque confronté à ce choix-là, tous les hommes choisissent le mal. Tous les hommes ne choisissent pas Dieu. Et donc, Dieu doit intervenir et en choisir lui-même, qui n'est pas donc du ressort de l'être humain. Est-ce que tu as un choix? Oui, tu as un choix. De toi-même, tu vas choisir le mal. Le Saint-Esprit, Dieu intervient pour toucher ton cœur, pour faire en sorte que tu puisses choisir.
Regarde le micro une seconde. Mais ça veut dire pourquoi est-ce que Jésus nous appelle puis il nous demande de faire un choix. Il dit, vous ne voulez pas venir à moi.
Absolument, il lui demande de faire un choix et c'est ça les condamne. Alors, le fait est que si Dieu n'offre pas le choix, Dieu est injuste. Dieu offre le choix et il devient manifeste que l'homme ne le choisit pas.
Alors, Dieu est machiavélique parce qu'il offre un choix à un individu qui ne peut pas faire de choix pour de vrai parce que son choix est déjà prédéterminé.
Son choix n'est pas prédéterminé, c'est que le cœur de l'homme est déjà penché vers le mal. Donc, il n'y a aucune possibilité que l'homme choisisse Dieu si Dieu n'intervient pas.
Fait que l'histoire de l'humanité, c'est une grosse mise en scène, une scène de théâtre où tu as une espèce de Dieu machiavélique qui est là puis qui est en train de jouer avec nous parce qu'il connaît déjà toute la fin de tout ça puis il est en train de te dire, regarde, on va faire une mise en scène pour ma gloire. Okay? On va faire à semblant que tu pourras peut-être choisir le bien, mais dans le fond, tu ne peux pas choisir le bien. Tu as déjà choisi le mal.
Il n'y a pas de mise en scène là-dedans.
Merci, Steph. Je voulais juste montrer que je comprenais l'autre position, d'accord? Non, mais, d'accord, je comprends l'autre position. Oui, je sais, mais c'est correct, il y en a qui ont suivi. Sylvain, Suzy. Excuse-moi, Steph.
OK, je crois que la compréhension de l'élection, pour moi, c'est comme si j'aurais un verre, puis je me mettrais à côté de l'océan, puis j'essaierais de le remplir. Tout ce que je comprends, c'est ce qui est dans le verre. Fait que c'est tellement immense que je ne serais pas à le saisir. Mais une chose, par contre, le choix qu'on a à faire, c'est ce que Dieu t'a donné, utilise-le. Mm-hmm. Choisis de faire quelque chose avec. Mm-hmm. Après ça, ben, si tu ne l'as pas donné, ben, tu ne sais même pas. Mais peu importe l'homme, Dieu a donné des choses. Mm-hmm. Il faut qu'il fasse un choix. Mm-hmm. Mais au niveau de l'élection, je ne pense pas qu'on est capable de le comprendre.
C'est ça. C'est certain qu'il y a une part de mystère, d'accord? Croyez-moi lorsque je vous dis que je ne suis pas en train de faire un cours de philo où je m'amuse à faire des débats philosophiques. Dieu nous a exposé une partie, Dieu nous a donné de l'information, ça fait partie de sa révélation et il y a une source d'édification dans ça. On essaie de le comprendre au mieux, puis à un certain moment donné, comme dit Sylvain, la manière que C.J. Mahoney avait illustré ça autrement, il avait dit, essayer de comprendre Dieu, c'est comme s'avancer dans un océan. Tu sais, après un certain nombre de mètres, tu réalises que tu touches plus le fond puis tu commences à reculer un petit peu. Puis là, tu dis finalement, je vais le comprendre d'ici, OK? Je vais juste rester pâmé devant cet océan-là. D'accord? Fait que c'est un petit peu la même idée. Oui, Suzy.
En fait, je trouve que ça a beaucoup d'impact quelle position on prend, parce que si on décide qu'on penche vers le fait que tout est décidé et prédestiné, moi, j'arrête de prier. Tu comprends-tu? Parce que quand je prie pour le salut de mes enfants, de ma mère ou de mes voisins, si tout est déjà décidé, j'ai l'impression que je ne participe plus au royaume de Dieu et que... Tu comprends-tu? Mm-hmm. Pour moi, j'ai l'impression d'être une marionnette puis que Dieu, finalement, tout est déjà joué et que j'ai rien à faire. Alors que ce n'est pas la compréhension que j'ai quand Dieu dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Tu sais, il nous interpelle puis c'est une grâce qui nous fait de participer à la bâtisse de son... la grandeur et la construction de son royaume. Fait que je trouve que c'est très important l'impact que ça a sur notre démarche.
Oui, maintenant, tu vois, garde le micro une seconde.
Oui, d'accord.
Maintenant, c'est vrai ce que tu dis. Maintenant, si on n'est pas élu et si c'est sur notre choix, sur la base de notre choix, quand toi, tu as accepté le Seigneur, est-ce que tu as l'impression que c'était ton œuvre à toi ou c'était l'œuvre de Dieu?
Ah, non, du tout. Mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont prié pour moi aussi. Tu vois, fait que... comme disait tantôt, il y a une part de mystère, mais oui, j'ai été appelée, OK? Dieu m'a convaincue. Je veux dire, si Dieu n'aurait pas mis son œuvre et m'aurait pas convaincue de pécher, regarde, je vous aimais mieux pour savoir ce que j'aurais fait. Mais il y a énormément de personnes qui ont prié pour moi avec persévérance pendant des années.
Pourquoi est-ce que Dieu ne le ferait pas pour ton voisin, ce qu'il a fait en toi? Tu peux prier pour ton voisin autant, est-ce que ça veut dire qu'il va se convertir?
Écoute, j'ai pas la réponse. Mais si Dieu ne prend pas en considération, OK, mes prières, un peu comme on voit dans les évangiles, où est-ce que la dame va intercéder auprès du roi, puis elle est fatigante, là. Puis tu sais, ce que Jésus dit, c'est que maintenant, là, le roi s'est tanné, puis il a donné, parce que... Puis là, il dit, vous-même qui êtes des parents, si votre enfant vous demande un pain, vous ne lui donnerez pas une pierre ou quelque chose. Tu sais, c'est le même principe, où est-ce que Dieu a compassion de ses enfants et prend en considération la prière. Tu comprends?
Définitivement.
En tout cas, j'ai pas la réponse, mais pour moi, il y en a un qui me décourage.
Mais je vous dirais la réponse la plus rassurante dans tout ça, c'est justement l'idée de la concurrence de Dieu. C'est-à-dire que tout concourt, Dieu fait concourir sa volonté et ses desseins avec les choix que nous faisons. D'accord? Et les deux ne sont pas à dissocier d'une manière systématique. On va le voir avec la dernière page, là. D'accord? Mais les deux ne sont pas à dissocier de manière systématique. Je peux faire des choix personnels et individuels tout en impliquant qu'il y a une influence de la part de Dieu dans mes choix, et les deux n'ont pas nécessairement à être séparés. Mais on va avancer un petit peu avec ça. Donc, la première objection, c'est que l'élection signifie que nous n'avons pas le choix d'accepter Christ ou de le refuser. Puis la réponse qu'un calviniste va vous donner, qui est ma réponse à moi, c'est que au milieu du paragraphe, là, je vais juste le lire. La position calviniste traditionnelle ne nie aucunement que l'individu a un choix à faire. En effet, nos choix sont libres et délibérés parce qu'ils reflètent ce que nous voulons faire véritablement. Mais ceci ne veut pas dire qu'il s'agit de choix libres d'une manière absolue, libres de toute influence, libres de tout décret divin. D'accord? Alors, quand je fais des choix, mon expérience véritablement, c'est que c'est mon choix. J'ai pas de doute, c'est mon choix que j'ai fait. Quoique des fois, je réalise que j'ai fait un choix, puis je réalise qu'il y a des facteurs qui sont venus m'influencer dans mon choix, puis si j'avais juste pu arrêter le temps puis me détacher un peu des circonstances, j'aurais fait un autre choix. Fait que là, je suis pas sûr que c'était juste mon choix. Il y a des facteurs qui sont venus jouer, de la pression de tel individu, telle affaire qui s'est passée, je filais pas, j'étais fatigué, puis c'était-tu vraiment le choix que j'aurais voulu faire? Mais quand même, c'est le choix que j'ai fait. Fait que mon expérience personnelle, c'est que c'est définitivement mon choix. J'ai une décision à prendre et c'est là réellement. Et donc, Dieu interpelle le choix des individus constamment, tout en disant que c'est lui qui a élu. On va à la prochaine page. D'après cette définition de l'élection, nos choix ne sont pas de vrais choix. À présent, certains diront que nous ne pouvons pas affirmer que nos choix sont de véritables choix s'ils sont influencés par Dieu. D'accord? Il y a moins de monde qui vont affirmer ça, mais une première lecture de la position calviniste, c'est ça qu'on va être tenté de dire. Nous pourrions avoir le sentiment que nous faisons des choix libres, mais en réalité, il serait le fait de la volonté de Dieu et cet aspect nous serait simplement caché. Mais nous devons nous poser la question suivante. Un choix doit-il être libre de toute influence pour être véritable et authentique? Alors, ce que cet argument-là dit, c'est peut-être que tu as le sentiment que c'est toi qui as fait le choix, mais si vraiment l'élection existe, en réalité, c'est comme un sentiment induit. Dieu te donne le feeling que c'est toi qui peux choisir, mais tu n'as pas rien choisi pour de vrai. Tu n'es juste pas conscient que tu es manipulé sur toute la ligne. Ça, c'est un argument qui est apporté contre la position calviniste. Puis une question que nous... Est-ce que tu veux juste donner un petit... Une question que nous, on doit se poser, c'est est-ce que nos choix doivent être absolument libres de toute influence pour que ce soit vraiment nos choix? D'accord? J'ai trouvé ça intéressant ce que Grudem a fait. En fait, c'est Tim Keller qui fait ça. Il dit, en réalité, l'être humain, depuis longtemps, ne croit pas qu'on fait des choix entièrement libres. Dans les années 60 et les années 70, sur la base de la psychanalyse, on pensait que la majorité des choix qu'on fait viennent du développement de notre enfance. D'accord? Donc, on ne pensait pas que nos choix étaient entièrement libres. On se disait, c'est le développement de mon enfance qui est venu déterminer quel choix j'allais faire plus tard. Aujourd'hui, c'est plus le développement de notre enfance qui est déterminant, c'est notre ADN. Donc, les choix que je fais, c'est pas vraiment mes choix, ça dépend un peu de mon ADN. C'est ce qui fait qu'on va prendre un individu et on va dire, ben, il a posé tel acte, mais il n'en est pas vraiment coupable. Parce que c'est pas de sa faute, son ADN l'avait préprogrammé à faire ça. Et voyez-vous, toute l'humanité, tout l'Occident est prête à jouer avec ces concepts-là, sans en prendre aucune offense. Mais s'il fallait que le facteur d'influence, ce soit Dieu, par exemple, là, ce ne serait pas correct, par exemple. Là, il faut que j'aie toute ma liberté, il faut que je puisse faire mes choix, d'accord? Donc, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la biologie, nous acceptons l'idée qu'il y a des facteurs qui peuvent venir nous influencer, puis ça ne fait pas que je perds toute ma liberté de faire des choix. Il y a des facteurs d'influence, mes prédispositions génétiques, mon enfance, le contexte que j'ai eu pour grandir, tout ça, ça peut influencer, c'est des facteurs d'influence, mais en définitive, je suis responsable de mes choix, il faut que je prenne des décisions. Et vous regarderez, là, notre époque a beau défendre des prédispositions génétiques. Avant, on avait beau croire dans des théories freudiennes que ça reposait sur le développement pendant ton enfance, puis tout ça, puis comment l'accouchement s'est passé, puis comment ça s'est passé pendant la grossesse, comment ta mère t'a aimé, t'as pas aimé, tout ça. Je suis pas en train de mépriser ça comme si c'était pas important. Ce que je suis en train de dire, c'est on faisait reposer beaucoup là-dessus, puis en même temps, on s'adressait à l'individu pour dire, ouais, mais là, il faut que tu t'émancipes de ça, là. Parce que là, c'est le temps que tu prennes les choses en main. Il faut que tu changes de quoi par rapport à ça? Tu peux comprendre d'où tu viens, mais il faut que tu changes des choses. Donc, on accepte l'influence, puis on demande à l'individu de faire des choix. En gros, c'est ça la position calviniste. D'accord? On croit que Dieu concourt, selon ses desseins, dans les choix que nous allons faire. Et donc, j'accepte l'idée que je suis responsable de mes décisions. Même si Dieu avait son mot à dire dans tout ça, ça veut pas dire que j'ai plus de choix à faire et que j'ai aucune décision à prendre. Enfin, nous devons nous demander si la parole de Dieu affirme à un moment quelconque. Et ça, c'est important, d'accord? Ceux qui restent comme sceptiques avec toute la question calviniste, il reste une question qui est importante. On doit se demander si à un moment quelconque, la parole de Dieu affirme que les choix de l'homme se font sans aucune influence divine et qu'il doit en être ainsi pour que les choix de l'homme soient authentiques. Les saintes Écritures n'enseignent pas une telle doctrine. Dans les Écritures, on trouve constamment l'idée que Dieu vient influencer des choix qu'on fait. D'accord? Puis l'homme est responsable de prendre ses décisions. La doctrine de l'élection, une autre objection, fait de nous des marionnettes ou des robots et non des personnes à part entière. Certains concluront que la doctrine de l'élection revient à faire de l'homme, bon, je ne répéterai pas tout ça, mais la parole de Dieu affirme clairement que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous voyons que sa liberté de faire des choix, qu'il devra assumer le distingue particulièrement du reste de la création. Les Écritures sont claires, on a été créé à l'image de Dieu, puis on est responsable des choix qu'on va faire. Puis c'est mon expérience quotidienne aussi. Oui.
Un très bel exemple biblique de la responsabilité humaine versus l'influence divine, c'est le recensement que David a fait. Il y a trois textes dans la parole de Dieu qui font référence à cet événement-là où David, un peu pour se glorifier ou se dire « Wow, je suis fort, m'a compté mon armée » et tout ça. Un, il dit clairement que Dieu a mis dans le cœur de David de faire le recensement. Un autre référent, ou parce qu'il voulait le châtier, un autre référence nous dit que c'est Satan qui a tenté David, et un autre référence nous dit que David reconnaît qu'il a péché, puis que c'est sa décision. Alors, c'est la concurrence, mais c'est toute une autre étude, ça.
Ben, c'est pas tellement loin, non? C'est très, très proche. Merci, Stéphane. La doctrine de l'élection signifie que les incroyants n'ont jamais eu l'occasion de croire. On pourrait croire, comme certains le prétendent, que la doctrine de l'élection entraîne le fait que ceux qui refusent l'Évangile, qui rejettent l'Évangile, n'ont jamais eu l'occasion de choisir, et ça nous donnerait un système totalement injuste. D'accord? Mais il faut noter, comme nous le verrons dans les versets suivants, que la Bible nous présente à de nombreuses reprises le choix que font ceux qui refusent d'écouter la parole de l'Éternel, ou les appels de Dieu. Jean 8, 43, 44. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Oh, ça semble dire que ce n'est pas tout à fait leur choix. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Ça reflète assez bien ce que Stéphane a soulevé tantôt. D'accord? Le cœur de l'homme est dépravé, puis si l'homme est laissé à lui-même de faire ses choix, il a déjà fait le choix. Il en va promener Dieu, ça finit là. Mais Mais ce qui est clairement dit ici, c'est la volonté de l'être humain. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. C'est pour ça que je vous dis, dans mon expérience personnelle, c'est moi qui fais mes choix, ça c'est clair. Et je suis responsable de ces choix-là. Est-ce que ça veut dire que ça exclut tout décret divin puis toute influence divine? Pas nécessairement. Jean 5, 40, « Vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. » Jésus leur déclare, « Vous ne voulez pas, c'est vous. » L'Écriture affirme sans cesse que ceux qui refusent de venir à Dieu le font par leur propre choix. Et enfin, à un second niveau, il convient de nous rappeler le passage de la lettre aux Romains, Romains 9, 20. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Donc, comme je vous dis, selon moi, la position calviniste, c'est une position qui est plus honnête avec l'ensemble des Écritures puis qui accepte plus de mystères. C'est simplement ça. Je vois ça dans les Écritures, puis j'essaie de ne pas forcer les choses. C'est comme je vous l'ai dit déjà dans le cours, je pense que ce n'est pas la semaine dernière, c'était plus tôt, mais c'est une des grandes difficultés que j'ai avec les... Je viens à toi, François, que j'ai avec les témoins de Jéhovah. Pour moi, l'approche des témoins de Jéhovah aux Écritures, c'est qu'on essaie de systématiser tous les mystères de la Bible. Et inévitablement, tu en viens à dire des niaiseries. C'est impossible d'essayer de prendre Dieu, dont la pensée est tellement plus grande que la nôtre, qui nous dit lui-même qu'il laisse des mystères, puis de dire on va élucider tous ces mystères-là en résolvant la quadrature du cercle. Inévitablement, tu vas en venir à dire des choses qui sont contraires aux Écritures. Et ma compréhension à moi, c'est la manière la plus honnête de lire les Écritures, c'est d'adopter cette position-là puis d'accepter certains mystères. Oui, François.
Comme beaucoup de gens, j'ai été tourmenté par cette doctrine-là, puis j'ai réussi à faire la paix quand que j'ai vu que dans mon cœur, je voyais l'œuvre de Dieu qui faisait en sorte que j'avais accepté sa grâce, puis je voyais aussi le fait que j'étais responsable de chacun des péchés que je commettais. Mais le verset que tu viens de nommer qui dit « Ô homme, quittez-toi pour contester avec, je paraphrase, parce que je ne l'ai pas par cœur, le potier », tu sais. Profondément, ce verset-là me choque parce que, inspiré par Dieu, Paul, il nous dit « Ferme ta gueule puis soumets-toi », tu sais. Mm-hmm. Puis,
ça, c'est dans l'enregistrement. C'est François qui parle. C'est pas moi. François Fournier. Vas-y, François, on t'écoute.
Puis, pourtant, moi, mon esprit résiste énormément à ce procédé-là. Je suis capable de l'accepter. Je suis capable de dire, OK, oui, c'est ça, il faut que je fasse. C'est parce qu'il y a un mystère en arrière de ça. Mais je suis quand même, tu sais, mon esprit résiste à ça énormément. Puis, ma réponse à ce verset-là, c'est de dire, je suis né dans un monde où j'ai pas choisi l'état de pécheur. Je suis responsable de mon péché, je commets des péchés, je suis pas capable de ne pas en commettre, mais j'ai jamais demandé à personne de naître dans un monde où je suis pécheur. Puis pourquoi la grâce de Dieu s'applique à moi? Pourquoi que Dieu me fait grâce à moi? Puis une autre personne, Dieu ne lui fait pas grâce, puis pourtant cette personne-là est née dans le même monde que moi, puis elle n'a pas demandé elle non plus à être pécheur. Enfin, voilà.
Maintenant, mais je pense que ça reflète le sentiment de plusieurs, François. Fait que je sais pas, je faisais une blague, là. Je pense que ça reflète le sentiment de plusieurs. Mais en même temps, ça, François, ça illustre notre difficulté à reconnaître qui est Dieu, qui nous sommes. Avant d'avoir une nature pécheresse, Adam et Ève n'auraient pas dit ce que je vais dire là. Mais avec une nature pécheresse, il aurait pu le dire, si c'était possible, avant d'avoir péché. Adam et Ève, sans être pécheurs, auraient quand même pu trouver aussi frustrant l'idée de dire « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été créé ton égal, Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit juste des créatures? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être comme toi? C'est injuste que tu nous crées pour être inférieur à toi puis t'adorer. » Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément comme injuste? Moi, je n'ai pas demandé à ce que tu me crées pour t'être inférieur. Je veux dire, si tu m'avais consulté avant de me créer, j'aurais préféré que tu me crées égal ou que tu ne me crées pas. Parce que ma destinée éternelle, c'est d'être un être inférieur. faut que tu dises au moins dans le micro.
Si je suis créé inférieur à Dieu, ce qui est d'ailleurs le cas, ça me dérange pas trop parce que j'ai été créé dans un état où, bon, si tout avait été parfait, je serais en train de m'occuper d'un jardin, puis je serais bien heureux, puis je serais en admiration devant tout, puis je serais pas un gars, malheureux à cause de ses péchés et ces choses-là. Mais là, c'est pas ça. Je suis venu dans un monde où je suis exposé, finalement, à souffrir pour l'éternité. Puis Dieu m'en a sorti, mais je veux dire, je suis pas né exposé à être heureux pour l'éternité. Je suis né exposé à être malheureux pour l'éternité.
Pas selon moi, là. Selon moi, toi, t'es né exposé à être heureux pour l'éternité.
Oui, mais une autre personne qui est dans la même condition que moi, finalement, mais qui refuserait la grâce, elle est exposée à...
Oui.
C'est ça. Ouais, voilà.
Mais fait que ce que moi, je comprends. Ce que je veux dire, c'est que... C'est pas... lorsqu'on va être dans l'éternité, puis on va célébrer l'éternel pour l'éternité... Puis on va voir la beauté de l'Évangile, puis la beauté de sa grâce, puis ce que Dieu a révélé de sa personne à travers toute cette grande catastrophe universelle. Okay? Parce que tout ça sert à sa gloire, puis ce tableau-là sert à cette catastrophe-là, là, qui fait qu'on discute, puis tout ça, là, sert à montrer la beauté et la majesté de la grâce de Dieu à travers l'agneau. Quand on va être dans l'éternité, tu vas être aussi en paix avec tout ça que si Dieu t'avait créé non pécheur, puis avec la liberté de choisir juste au départ. Puis ce qui fait qu'en définitive, je suis en paix avec Dieu vraiment, c'est que je dis, toi, tu es le Créateur, moi, je suis la créature. Dis-moi ce que tu attends de moi. Puis c'est toujours là. Quel que soit le péché avec lequel vous luttez, quelle que soit l'épreuve avec laquelle vous luttez, en définitive, quand vous allez être victorieux, vous allez donner la même réponse que je donne devant, mettons, la doctrine de l'élection, c'est « Seigneur, fais en moi ce que tu veux, puis je fais juste m'abandonner à toi, puis j'arrête de discuter. » Et chaque fois que le vase dit au potier, « J'arrête de discuter, Seigneur, par ta grâce, j'arrête de discuter, je fais ce que tu veux. J'ai la victoire, à chaque fois. » C'est ça que je suis en train de faire. Fait que on revient toujours quand même à cette position de créature. Je comprends qu'il n'y aurait pas cet intermède-là de souffrance. Il faut que je termine la leçon. Coco. Oui.
Mais cette prise de conscience-là, François, que l'autre à côté de toi n'a pas cette chance-là, est-ce que ça te donne pas de la compassion justement pour le monde perdu? Est-ce que ça ne tente pas plus encore d'ouvrir la bouche en disant peut-être que c'est un élu que j'ai à côté de moi, puis le Saint-Esprit attend juste que la parole sorte?
Bien, c'est ça. Mais la position arménienne va dire non. Ça m'amène à être plutôt fataliste puis à dire... Dieu sauvera ceux qui sont élus. Avec ou sans moi, il va le faire. Tu sais, c'est la position, c'est la compréhension que les Arméniens ont de la position calviniste. Mais c'est quand même un paradoxe parce que dans notre expérience chrétienne, presque tous les chrétiens sont calvinistes. Dans notre expérience quotidienne, comprenez, on laisse beaucoup plus de place à la souveraineté de Dieu. Puis chaque fois qu'il se passe quelque chose de bon en nous, on dit « Seigneur, c'est toi qui le fais, je t'en rends grâce. Tu » sais. Fait qu'on est calviniste à tous les matins lorsqu'on est en train d'obéir à Dieu. Sur ces grandes questions-là, on est mal à l'aise, puis on dit, non, il faut quand même que ce soit un choix de l'homme. Mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui disent, « Hey, Seigneur, j'en ai quand même un petit peu plus dans le cœur que mon voisin pour t'obéir. Hein? Tu savais qui tu choisissais. » Non, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui disent ça, ou qui regardent d'autres chrétiens, qui boitent, puis qui disent, « Ne change pas comme eux autres, je suis quand même mieux qu'eux autres. » Non, on a été saisis par la grâce, puis on dit pourquoi, Seigneur? Fait que dans la pratique, on tend vers ça quand même.
C'est clair que Dieu pourrait tout faire ça sans nous autres. C'est vraiment une grâce. Dieu pourrait sauver qui qu'il veut sans qu'on intervienne. Mais c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait
de participer à ça. Définitivement.
Et en plus, on a des bénédictions attachées à ça.
Il est calviniste, là, si vous ne l'aviez pas remarqué. OK. Alors, un dernier. Oui, c'est tout enregistré. Vous allez. Ouais. Stéphane Rondeau, t'es enregistré sur cette déclaration. OK, 5. Si vous n'écoutez que cet épisode des cours bibliques de l'Église de l'Espoir, nous sommes parfois plus sérieux. L'élection est injuste. Cinquième argument. D'aucuns estimeront que la doctrine de l'élection en vient à dire que Dieu est injuste parce qu'il aurait choisi librement d'en sauver certains et de ne pas en sauver d'autres. Alors, juste se ramener à la base, ça c'est vraiment important. On doit toujours garder à l'esprit que la simple justice de Dieu ne l'obligeait d'aucune manière à sauver qui que ce soit. Et au contraire, en vertu de sa justice, Dieu n'avait qu'à condamner l'humanité entière. Ça, c'est la justice de Dieu. Que ce soit en naissant pécheur ou que ce soit en naissant non-pécheur puis en péchant après, la justice de Dieu, c'est de condamner tous les pécheurs. D'accord? Tout simplement, et d'en sauver aucun, sa justice est entièrement satisfaite en donnant l'humanité entière. Comme il a fait avec les anges, exactement. Aucune porte de sortie pour les anges. Exactement. En fait, cette accusation qui voudrait que Dieu soit injuste, si en effet il avait choisi ses élus... Là, je vais faire de la grosse gymnastique les deux prochains paragraphes. Okay? Vous les relirez, c'est pour ça que je les ai écrits. En fait, cette accusation qui voudrait que Dieu soit injuste, si en effet il a choisi ses élus, revient à dire que Dieu serait injuste d'avoir créé des êtres qu'il savait par avant pécheurs et éventuellement damnés. Ainsi, sans même en prendre conscience, ces mêmes personnes qui luttent intérieurement avec la doctrine de l'élection vous diront aussi qu'il aurait été préférable que Dieu ne crée aucun homme qu'il savait par avance qu'il ne se repentirait pas, car il voit ici une possible cruauté de Dieu. D'accord? J'ai pas réglé vraiment mon problème. Dieu est injuste s'il nous choisit d'une manière pure, sans regarder le futur. Alors, si Dieu crée quand même des êtres qui allaient naître pécheurs et qui ne choisiraient pas le bien, est-ce que c'est quand même pas cruel à ce moment-là de la part de Dieu? Est-ce que Dieu n'aurait pas dû simplement créer ceux qu'il savait par avance qui accepteraient l'Évangile? Il me semble que ça me réconcilierait encore plus avec Dieu. Et donc, en fin de compte, on aurait pu régler toute la question du salut dans les 5 premières minutes de l'histoire de l'humanité. T'sais. Adam pêche, Ève pêche, Jésus vient tout de suite. On n'est pas obligé de souffrir toute la gang. Dieu crée seulement ceux qui vont accepter l'Évangile. C'est juste ceux-là qui naissent par la suite. Et ils acceptent systématiquement l'Évangile tous très, très tôt. Puis on évite beaucoup de tout ce drame-là qu'on est en train de vivre actuellement. Vous relirez les deux paragraphes, d'accord? Ils veulent donc voir l'homme libre de toute influence divine et voudraient aussi que Dieu n'ait créé que les hommes libres qui librement choisiront de suivre Dieu, ne créant jamais les autres. Ceci ressemble étrangement à un déterminisme sévère où nous pouvons nous interroger quelle place demeure pour le choix libre de l'homme, Dieu ne créant que les hommes libres qui librement choisiront de faire le choix que Dieu veut. C'est pourquoi la sagesse et l'humilité commandent que nous méditions avec soumission sur l'argument de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul présente en Romains 9. Romains 9, 20 à 24. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? » Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire? Nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Dieu est et demeure le Créateur, et nous sommes ses créatures. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, et il serait inapproprié d'accuser celui qui nous a créés et nous a offert le salut par le sacrifice de son propre Fils d'une injustice quelconque. Dernier argument, la Bible déclare que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, ceux qui ont un problème avec la doctrine de l'élection disent est-ce que Dieu voulait vraiment que tous les hommes soient sauvés, puisqu'il y en a élu juste certains d'entre eux. Ainsi, une dernière objection est que la Bible affirme que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il est vrai que les Saintes Écritures affirment à quelques reprises que Dieu désire le salut de tous les hommes. 1 Timothée 2,4, j'ai prêché là-dessus à l'Église. Et ces passages nous inspirent grandement dans nos prières et nos efforts d'évangélisation. C'est ce que Suzy soulevait tout à l'heure. Ces versets ne sont-ils pas en contradiction avec l'idée que Dieu aurait choisi certaines personnes pour le salut? Pour comprendre cette tension que nous rencontrons en lisant la parole de Dieu, nous parlerons de la volonté révélée de Dieu et de la volonté cachée de Dieu, ou encore de la volonté générale de Dieu et des décrets de Dieu. Ainsi, ces passages expriment le fait que Dieu souffre de voir les hommes damnés et ne souhaite pas que le méchant périsse, mais il ne parle pas des décrets secrets de Dieu. Et là, on ouvre la piste vers tout un autre sujet qui est la question qu'on a déjà commencé à voir plus tôt dans le cours, mais la question des décrets, la volonté décrétée de Dieu puis sa volonté révélée. Sa volonté révélée, c'est Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il souffre vraiment de voir les hommes rebelles. Dieu a décrété certaines choses dans son histoire et ces choses-là vont s'accomplir. On accepte ça, par exemple, avec la venue de Jésus. Dieu avait décrété que le Messie viendrait et le diable aurait beau faire vent et marée, faire n'importe quoi, il n'allait pas réussir à faire tomber ce projet-là. Dieu l'avait décrété, ça s'est passé comme Dieu le voulait. D'accord? Ça, c'est la volonté décrétée de Dieu et elle s'accomplit toujours. Puis en même temps, il y a cette volonté révélée où Dieu invite tous les hommes à venir. D'accord? Les Arméniens vont avoir de la difficulté avec ça parce qu'ils vont dire, là je suis en train de m'étirer un petit peu, mais on va faire ça bref, d'accord? Ils vont dire donc, ça veut dire qu'il y a deux volontés en Dieu. Il y a sa volonté générale, puis il y a sa volonté décrétée. D'accord? Comme je vous dis, on a toujours des problèmes de logique sur cette question-là. Il faut accepter certains mystères. La position arménienne a dit qu'il y a deux volontés en Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, puis Dieu veut respecter le libre arbitre de l'homme. Et donc, Dieu décide que c'est le libre arbitre qui l'emporte. Dieu exprime dans sa parole qu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Et les Arméniens disent « Dieu veut que les hommes soient libres de leur choix. » Donc, il y a deux volontés en Dieu. Puis Dieu décide que c'est le libre arbitre de l'homme qui va l'emporter sur son désir que tous les hommes soient sauvés. Donc, il y aurait deux volontés en Dieu aussi. D'accord? On ne s'en sort pas. Puis en même temps, on le vit au quotidien. Il y a des choses que je voudrais de tout mon cœur, puis il y a des choses que je vais décider de faire parce que c'est ça qui est prioritaire. Et donc, on trouve ça dans notre expérience à nous aussi. Pardon? Vos vœux de mariage, oui. Vos vœux de mariage, c'est ce que vous aimeriez faire, puis ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous voulez faire. C'est bon. On va terminer ensemble dans un mot de prière. Écoutez, s'il y en a pour qui tout ça est plus troublant qu'édifiant, j'aimerais ça vous encourager à faire de la lecture. J'ai des bonnes lectures pour vous, par exemple, dans le contexte de l'évangélisation. Vraiment édifiant. Vraiment édifiant. Et donc ça pourrait vous aider. Mais on peut vous diriger vers quelques bonnes lectures. D'accord? On va terminer ensemble dans un mot de prière. Éternel notre Dieu, tous les chrétiens savent que c'est toi qui nous as choisis, tu nous as élus. Et il y a une part de mystère, Seigneur. Certains d'entre nous ont tendance à comprendre dans cette élection que tu savais, Seigneur, par avance que nous allions choisir. D'autres, comme moi, Seigneur, ont plutôt l'impression que c'est simplement un acte gracieux et tu as décidé de me choisir, moi, Seigneur. Père, nous voulons reconnaître que sans ton intervention, nous ne serions pas près de toi, Seigneur. Sans le sacrifice de ton Fils, sans ton appel, nous ne serions pas près de toi, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, de ce que tu nous as appelé. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, de ce que nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, de ce que ta souveraineté concourt à tous les jours à nous aider à persévérer dans la foi, Seigneur. Et nous nous appuyons sur ta force, non sur la nôtre, pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Accorde-nous la grâce de faire les bons choix, Seigneur. Accorde-nous la grâce de nous reposer sur toi. Accorde-nous la grâce d'être attentifs à tes appels, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour pour nous. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, on continue la semaine prochaine sur un autre sujet.